C'est un peu le gendarme de nos caddies, de nos paniers, l'autorité de la concurrence, une institution indépendante qui célèbre ses 10 ans et qui veille aux règles des marchés, à l'ordre public économique. Bonjour Isabelle De Silva.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'autorité de la concurrence. Dans votre rapport annuel que vous venez de présenter, vous avez fait les comptes et selon vous, en un peu moins de 10 ans, vous avez permis un gain total de 14 milliards d'euros. Expliquez-nous, c'est énorme cette somme.
Oui, c'est assez considérable. Alors, quand on décompose cette somme que nous avons réalisée en suivant la méthodologie de l'OCDE, on voit d'un côté 4,5 milliards d'euros. Ce sont toutes les sanctions qui ont été prononcées depuis 2011. Certaines étaient très considérables. Et l'autre dimension, donc 9,5 milliards, c'est l'impact positif pour l'économie. Donc, comment est-ce qu'on le calcule ? Par exemple, si on découvre et qu'on sanctionne un cartel, on calcule la somme qui aurait pu être prélevée indûment par les entreprises pendant toutes les années où le cartel n'aurait pas été découvert. Et ça peut concerner des produits très variés comme les produits électroménagers ou des produits que nous achetons en supermarché.
On va bien expliquer, c'est l'une des missions essentielles de l'autorité, c'est d'éviter la constitution de cartels. Alors un cartel, c'est quoi ? C'est un regroupement en fait d'entreprises, elles se concertent pour se mettre d'accord sur les prix, c'est ça ?
Voilà, donc ce que nous cherchons et ce que nous cherchons à détecter, ce sont les cartels et les ententes notamment, et aussi les abus de position dominante. Donc ce qui est interdit, c'est lorsque des entreprises se mettent d'accord de façon occulte pour augmenter les prix par exemple ou fixer des conditions commerciales indues. Alors pourquoi est-ce que c'est sanctionné ? Tout simplement parce que ça prive le consommateur des bénéfices de la concurrence qui doit jouer entre toutes les entreprises sur les prix, sur la qualité, sur la diversité.
Et vous avez estimé que ça faisait augmenter les prix de 25%, je crois ?
Dans certains cas, effectivement, on peut le démontrer, puisque je pense par exemple à un cartel que nous avions sanctionné dans le secteur des monuments historiques. Et on a vu, après que le cartel ait été découvert et sanctionné, les prix redescendre de 25% dans ce secteur. Donc ça, c'est des simulations qu'on peut faire qui permettent de voir quel est le surprix qui a été prélevé indûment par les entreprises.
Alors pour bien comprendre, on va prendre des exemples précis. Cette semaine, par exemple, on a parlé du cartel de la compote. Alors comme ça, ça peut faire sourire, mais c'est très sérieux. Ça nous a coûté cher hein, dans nos paniers, cette histoire.
Alors l'affaire va être jugée définitivement à la rentrée. Le type de pratique qui est en cause dans cette affaire qui a été révélée par la presse, ce serait, si nous estimons qu'il y a eu infraction, des entreprises qui se seraient mises d'accord pour augmenter les prix vis-à-vis de la grande distribution. Donc ça, c'est un type de cartel qu'on trouve assez fréquemment. On en a sanctionné par le passé, par exemple, pour les produits laitiers ou encore pour les produits d'hygiène et d'entretien, et ce qui était l'une des plus grosses sanctions jamais prononcées
par
l'autorité.
Ça, c'est votre record. En 2014, c'est ça ? Une amende record ?
C'était une amende, effectivement, qui atteint presque 1 milliard d'euros. Donc, on est face à des montants absolument colossaux. Et en fait, ces montants, ils ne font que représenter le préjudice que ces ententes créent pour l'économie, puisque nous calculons sur la valeur des ventes, finalement, la dîme qui a été prélevée indûment par les entreprises.
Et parmi les plus récents, on a également parlé d'un cartel de l'électroménager. Pareil, les fabricants sont mis d'accord sur le prix de la vaisselle, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, ce qui était intéressant dans cette entente, c'est qu'elle tous les grands fabricants d'électroménagers en faisaient partie, à part les concurrents asiatiques. Et l'entente était assez sophistiquée, puisque le plus haut management pilotait l'entente de façon très sophistiquée. Et très concrètement, cela conduisait les fabricants à se mettre d'accord sur des hausses de prix qui allaient être imputées de 20 à 50 euros, par exemple, pour chaque appareil. Et ça concernait des produits qui sont vraiment l'équipement de base du français, un lave-vaisselle, un lave-linge et les produits de ce type.
Alors l'une de vos armes pour éviter la formation de cartels, c'est de bien étudier les rachats et parfois d'empêcher certains rachats. Vous avez des exemples ?
Tout à fait. Donc ça, c'est l'une de notre deuxième grande mission, c'est d'autoriser les concentrations. Donc dès lors qu'en France, une entreprise en rachète une autre ou veut fusionner avec celle-ci, elle doit nous demander une autorisation. Si l'opération est considérable, ça sera Bruxelles qui l'autorisera. Ce que nous essayons de faire cette fois, c'est en amont d'une infraction, donc ce n'est pas interdit de racheter une entreprise. Nous essayons de déceler les rachats qui nuiraient à la concurrence. Donc ça peut être par exemple la constitution d'un monopole là où auparavant deux entreprises étaient en concurrence pour offrir les meilleurs prix aux consommateurs. Dans certains cas, ça peut nuire aux consommateurs. On peut penser par exemple à l'opération Siemens-Alstom qui a été interdite par la Commission européenne. Donc nous essayons de voir est-ce que le rapprochement de ces entreprises va être positif ou négatif pour le consommateur. Et ça, ce sont des analyses un petit peu sophistiquées où on rentre dans le détail du marché et de ce que les entreprises veulent faire.
Ou par exemple, quand la Fnac voulait racheter Darty, là, vous avez posé vos conditions, c'est ça?
Tout à fait. Alors, on a autorisé ce rapprochement qui était l'un des plus importants qu'on a eu en France dans ces dernières années. Ce qui était intéressant dans cette affaire, c'est qu'on créait donc un très grand géant français dans la distribution des produits électroniques que nous connaissons tous. Nous avons pris en compte à cette époque, en 2016, la concurrence d'Amazon et de la vente en ligne. Et c'était la première fois, finalement, on a un peu adapté notre logiciel d'analyse à cette révolution qu'est le commerce en ligne, en prenant en compte, dans l'analyse des parts de marché, qui est un peu l'une des méthodologies de base que nous utilisons, nous avons pris en compte le fait que le commerce en ligne et les acteurs comme Amazon venaient challenger de plus en plus les acteurs de la distribution en magasin, dont on sait qu'ils traversent aujourd'hui une crise extrêmement profonde et qu'ils doivent un peu réinventer leur modèle. Donc on a autorisé cette opération, certes en leur demandant de céder 6 magasins en région parisienne, ce qui était des remèdes finalement assez mesurés par rapport à l'ampleur de cette opération très très, très importante.
Vous travaillez aussi sur des secteurs assez sensibles comme celui du médicament. Là, vous avez rendu quelques avis sur ce secteur pour le réformer. Quelles sont vos propositions?
Oui, nous avons voulu au début de l'année revenir dans une grande enquête sur le secteur de la santé avec trois angles principaux. D'abord, la distribution du médicament en France. Et nous nous sommes interrogés sur le nouveau modèle de la pharmacie aujourd'hui, qui connaît des évolutions, là encore, très, très intéressantes. Par exemple, le développement de la e-santé, le fait que le pharmacien a des nouvelles missions, comme par exemple faire des vaccins, ce qui n'existait pas précédemment, ou d'être davantage dans le conseil aux patients. Et nous avons noté aussi que pour la distribution des médicaments sans ordonnance, il nous semblait qu'on pouvait envisager d'autres modes de vente en dehors de l'officine stricto sensu, et notamment dans la grande distribution, mais dans un cadre très encadré avec un pharmacien qui pourrait contrôler l'acte de vente. Donc ça, c'est une proposition. Un autre sujet que nous avons regardé, c'est celui de la vente en ligne des médicaments. Parce que depuis quelques années, c'est autorisé en France, mais beaucoup de personnes ne le savent pas parce que ça a très peu démarré, notamment parce que les sites de vente en ligne de médicaments n'ont pas le droit, par exemple, de se faire référencer sur un moteur de recherche. Or, aujourd'hui, beaucoup de personnes trouvent les produits qu'ils recherchent par les services en ligne. Donc, ce que nous avons proposé, c'est toute une série d'assouplissements pour moderniser cette vente en ligne. Et le gouvernement nous a suivis sur ce point et est en train d'en discuter avec les professionnels.
Mais c'est un point de vue économique, commercial, alors que là, il y a quand même des questions aussi sanitaires, éthiques sur la vente de médicaments.
Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose, nous sommes habitués à donner des avis au gouvernement. C'est effectivement la troisième grande mission de l'autorité qui me paraît très importante. C'est de réfléchir de façon un peu large à l'évolution des secteurs économiques comme celui du médicament ou de la santé, en prenant en compte, bien sûr, la dimension d'intérêt public, la dimension de réglementation. De même, lorsque nous donnons un avis sur le transport ferroviaire, nous prenons en compte et nous intégrons les préoccupations d'intérêt général. Donc, mais il peut y avoir, bien souvent, des secteurs très régulés, mais qui pour autant sont économiques, même si parfois les acteurs refusent ce terme.
Il y a quelques années, vous aviez pris la parole, l'autorité de la concurrence, sur la privatisation des autoroutes. Aujourd'hui, vous avez un avis sur la privatisation d'ADP, Aéroport de Paris?
J'ai pas exprimé d'avis sur ce sujet très particulier.
Vous étudiez ce cas quand même?
Alors, nous n'avons pas été saisis dans le cadre de la préparation de la loi Pacte de ce point particulier. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on privatise un monopole important et qui plus est structurant pour l'économie française et la vie des Français, il faut des conditions qui sont à la fois d'ordre économique pour que l'État voit ses intérêts préservés et qui préserve l'outil, par exemple.
Vous poserez vos conditions sur cette privatisation?
Alors non, nous n'avons pas à intervenir spécifiquement sur la condition, mais je dirais que de façon générale, lorsqu'on est face à un monopole, je pense qu'il faut être très vigilant, y compris pour l'intérêt général que représente un aéroport parisien.
Merci beaucoup Isabelle De Silva d'être venue à notre micro ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'autorité de la concurrence. Merci à vous et bonne journée.